Elle prend sa place surtout dans la célébration du culte, parce qu'en fait, un culte protestant ressemble à toute liturgie chrétienne, ou même beaucoup à une messe catholique finalement. Il y a une liturgie de la parole, il y a la possibilité en tout cas d'une communion, c'est-à-dire d'une sainte cène. La différence essentielle, c'est une question de centrage. Le culte protestant est vraiment centré sur la lecture et la prédication, plus que sur la célébration du sacrement. Il y a une forte attente de la part des paroissiens sur le contenu de cette prédication. Une prédication protestante dure en général une vingtaine de minutes, et ici à l'Étoile à Paris, on prêche régulièrement une bonne demi-heure. Hein. Le pasteur donc passe beaucoup de temps pour préparer sa prédication.
Alors quand il choisit de préparer sa prédication, il a son interprétation personnelle de l'Écriture sainte ou il s'inscrit dans un courant d'interprétation qui est déjà là ?
Non, c'est une interprétation tout à fait personnelle. Comme le protestantisme ne se définit pas d'une façon doctrinale, il n'y a pas, au cours de la prédication, à délivrer un message qui serait, en fin de compte, celui de l'Église. Ça veut dire que les fidèles attendent de la prédication un discours stimulant, intéressant, et qui les réveille, qui les remette en route et en marche dans leur propre réflexion.
Mais il y a quand même des courants dans le protestantisme. Il y a le protestantisme libéral du 19e siècle, il y a des auteurs plus classiques ou qui reviennent plus à une théologie qui vient d'en haut, comme Barthes. Comment chaque pasteur, ou alors plutôt même chaque protestant, quand il lit la Bible chez lui, s'inscrit dans un courant ?
Il y a effectivement de nombreux courants et il y a même plusieurs églises protestantes, hein, puisque entre les différentes églises évangéliques, l'église réformée qui est donc l'église historique, je dirais, en France, il y a effectivement différentes approches. Il y a des protestants très, très fondamentalistes ou littéralistes qui effectivement lisent la Bible d'une certaine manière. Dans l'église réformée, il y a le principe, je dirais, d'avoir un certain recul critique par rapport au texte qui évidemment laisse beaucoup plus de liberté. Maintenant, chaque paroisse ayant la liberté de choisir son pasteur, il est certain que, et ça c'est surtout vrai dans les grandes villes, les paroisses peut-être vont quand même choisir le pasteur en connaissance de cause, c'est-à-dire aussi en fonction de ce que l'on sait de sa tendance théologique.
À côté des églises historiques comme les réformées, on voit aujourd'hui proliférer des sectes protestantes en France, mais plus encore en Afrique ou en Amérique du Sud, c'est à cause de divergences d'interprétation ?
Alors ces églises ne sont pas toutes des sectes, hein, qu'elles aient parfois des tendances sectaires, c'est possible, mais toutes ces églises ne sont pas nécessairement des sectes. Disons que les différences, effectivement, touchent à plusieurs points. D'abord sur le rapport à l'écriture, c'est-à-dire que la plupart de ces églises ont des tendances plus ou moins marquées à une lecture fondamentaliste, c'est-à-dire en tout cas à considérer que la Bible est la parole dictée par Dieu et que c'est comme ça, quoi. Il faut la croire et l'appliquer. L'autre tendance, c'est une tendance au charismatisme, c'est-à-dire à une expression très extérieure de la foi, un engagement très fort, une demande finalement très pratiquement exclusive de la préoccupation religieuse dans la vie des fidèles, etc. Et puis enfin, une troisième tendance qui est au niveau communautaire, c'est-à-dire des églises qui forment souvent des communautés très chaleureuses, très fortes, et avec donc une importance très considérable du pasteur et de la communauté en elle-même, des églises très centrées sur une doctrine, c'est-à-dire qui sont très doctrinales. C'est-à-dire qu'il y a un message, en fait, qui est le bon message, et il y a des réponses qu'on connaît à toutes les questions. Finalement, on n'a pas trop le loisir de s'écarter de cela. C'est souvent pour ça aussi que ces églises se multiplient, parce qu'en gros, dans chaque église, il y a quand même j'aurais plus d'unité de message que dans une église comme la mienne, où je peux trouver des paroissiens qui auraient des points de vue très différents sur beaucoup de questions, même importantes, de la théologie.
À côté de l'Écriture sainte, les églises protestantes conservent bien quand même des repères d'orthodoxie, comme le symbole de la foi, partagé aussi avec les catholiques et les orthodoxes, non ?
Plus ou moins, c'est-à-dire que l'Église réformée se définit dans son rapport à ces grandes confessions de foi du symbole des apôtres ou des premiers conciles en disant qu'effectivement, il reste une certaine référence, mais l'Église réformée définit au moment de la consécration des pasteurs en demandant aux pasteurs de promettre qu'ils croient donc aux grandes confessions de foi des symboles des apôtres et des premiers conciles écuméniques, mais rajoute une incise là en disant « Vous promettez de croire, virgule, sans vous attacher à la lettre des formules, mais en proclamant le message de salut qu'il comporte, virgule, aux grandes confessions de foi, etc. » Ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas l'obligation, si vous voulez, d'y croire au pied de la lettre, mais finalement, on peut en faire une interprétation spirituelle. Prend par exemple le fait que Jésus siège à la droite de Dieu, enfin, ou la résurrection de la chair, ou le fait qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts, et des choses comme ça, ce sont des choses qui peuvent être discutées dans l'Église réformée. Des églises de type plus évangélique, eux, prendront certainement beaucoup plus littéralement, je dirais, ces articles de foi.
Comme pasteur protestant, voyez-vous positivement le fait que des évêques catholiques se réunissent aujourd'hui en synode à Rome avec des protestants et des orthodoxes pour parler de la centralité de la parole de Dieu dans la vie des chrétiens ?
Oui, en même temps, je n'ai jamais douté que la parole de la Bible ou que la parole de Dieu, comme on dit, ait une grande importance pour l'Église catholique romaine. Je ne pense pas personnellement que ce soit ça la question. Je crois que ce qui sépare peut-être les protestants et les catholiques, plus que l'intérêt porté à la parole, qui est véritable, et je dirais le même dans toutes nos communautés, c'est la conception de l'Église, la structure de l'Église, et aussi la conception donc d'une vérité unique ou au contraire d'une certaine liberté de recherche doctrinale pour les fidèles. Donc par conséquent, moi je trouve ça très bien que l'Église redise son intérêt à l'Écriture sainte, mais je n'en ai jamais douté, ça ne me pose pas un problème. Ce que je trouve intéressant, c'est le fait qu'il accepte d'y réfléchir avec d'autres chrétiens, c'est-à-dire que ce soit fait fraternellement avec peut-être d'autres gens qui ont le même intérêt pour cette Écriture, et qui peuvent peut-être l'interpréter d'une façon un petit peu différente. Et le fait d'accepter que quelqu'un d'autre puisse l'interpréter un peu différemment, mais que cela n'enlève pas le fait qu'il puisse être un frère en Christ et qu'on puisse travailler avec lui pour essayer d'évangéliser le monde, me semble quelque chose d'absolument essentiel et fondamental, et très réjouissant. Dans le sens de ce que je viens de dire à l'instant, c'est qu'à une époque, on disait les protestants connaissent mieux la Bible que les catholiques. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit vrai, très honnêtement. Je pense que les catholiques s'intéressent depuis quelques années à l'écriture, justement, au moins autant que les protestants. Et donc ça, c'est tout à fait réjouissant et très bien.